Nous allons prier. Seigneur, merci parce que encore une fois nous pouvons ouvrir ta parole. Nous voulons recevoir cette parole qui vient de toi. Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs et être réceptifs. Seigneur, tu sais combien j'ai besoin de toi, combien j'ai besoin de que tu parles et que ce soit toi qui parle, et que ce soit toi seul qui sois glorifié. Seigneur, nous t'en prions. Nous te prions aussi pour les enfants, pour qu'ils reçoivent ta parole, et que tu donnes aux moniteurs et aux monitrices de parler selon toi. Seigneur, nous t'en prions, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons continuer dans les évangiles, et nous sommes arrivés à dans le passage dans Luc 10, verset 38, nous faisons l'harmonie des évangiles, on essaye de suivre le plus fidèlement possible la vie de Jésus-Christ. Et là, nous sommes arrivés donc à Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne sera point ôtée. » Donc on voit Jésus en chemin, on sait qu'il monte vers Jérusalem, et là, il rentre dans un village. Alors c'est vrai que le nom du village n'est pas donné, mais nous savons que dans d'autres évangiles, surtout dans l'évangile de Jean, on voit que c'était le village de Béthanie, parce que c'était là où habitaient Marthe et Marie et Lazare. Béthanie se trouve à un peu moins de 3 kilomètres de Jérusalem. C'est marqué 15 stades, donc un peu moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Et là, on voit une femme qui invite Jésus à le recevoir. Et femme, elle s'appelle Marthe. Et Jésus accepte. C'est pas la première fois que Jésus accepte une invitation. Et d'ailleurs, à chaque fois, c'est très intéressant, à chaque fois qu'on pourrait dire il y a un repas, il y a toujours, on pourrait dire, une leçon à en tirer. Si on fait juste un petit survol, je pense à Lévi, quand il a invité Jésus pour dire, on pourrait dire, un pot de départ. Parce que Jésus a appelé Lévi, Matthieu, à le suivre, et comme lui, c'était un publicain, il a invité, on pourrait dire, tous ses collègues à un repas. Et nous savons que ça a provoqué des critiques, parce que Jésus mangeait avec des gens de mauvaise vie. Et les pharisiens qui étaient là disaient aux disciples, mais vous vous rendez compte? Il mange avec des pécheurs, il est là. Mais à chaque fois, il y a eu une leçon. Et cette leçon, c'est que Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour les bien portants, mais qu'il était venu pour les malades. Et qu'il était venu pour les brebis perdues. Et qu'il n'y a que ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Une deuxième fois, il était invité par un Simon, qui est pharisien, un chef religieux, un pharisien qui était quelqu'un de très strict, et qui a invité Jésus. Et Jésus a accepté de cette invitation. Mais voilà, pendant ce repas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une femme, à un moment donné, une femme de mauvaise vie qui est arrivée par derrière, qui s'est mise à pleurer sur les pieds de Jésus, qui a essuyé avec ses cheveux. Et là, Simon, le pharisien qui était là, qui dit, mais pas possible. Mais ça ne peut pas être un prophète. C'est pas possible. S'il savait me touchait. Mais c'est pas possible, c'est une femme de mauvaise vie. Et Jésus donne encore là un enseignement sur les deux débiteurs. Celui qui donnait, un qui devait 500 deniers, l'autre 50 deniers, et les deux ne pouvaient pas payer, et en fin de compte, on en remit la dette aux deux. Et Jésus pose la question à Simon, mais d'après toi, qui va aimer le plus? Ah, ben celle qui doit 500 deniers. Et là, il en tire une leçon en disant, toi, cette femme, toi, quand je suis rentré chez toi, tu m'as pas mouillé, tu m'as pas lavé les pieds, tu m'as pas oint d'huile de ma tête. Mais elle a fait que cela. Et on voit son amour, parce que elle a reconnu le pardon, que le pardon était auprès de lui. Et Jésus aussi, c'est lui qui se fait inviter. Ça arrive aussi, ça. Et Jésus s'est fait inviter par qui? Par Zachée. Et là encore, il y a une leçon. Il y a des personnes qui disent, mais c'est pas possible. Il va chez Zachée. Mais attendez, c'est un voleur. Et on sait que là, c'était une expérience bénie pour Zachée. Et on peut dire, voilà, le salut est entré dans cette maison. Donc on voit qu'il y a des leçons. Et là, il y a encore une leçon. Jésus se laisse inviter. Donc, il se laisse inviter par Marthe. Alors, on se demande pourquoi Marthe, c'est Marthe qui invite, on pense que c'est elle la propriétaire, on se demande si elle était veuve. En tout cas, on suppose qu'elle était l'aînée, parce qu'il y avait Marthe, Marie et son frère Lazare. On sait d'ailleurs plus tard que Lazare a été ressuscité par Jésus-Christ. On sait aussi même plus tard, alors on ne sait pas à quel moment cette expérience s'est passée pour Marthe, mais nous savons que Marthe a confessé sa foi, parce qu'elle a dit dans Jean 11, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Donc on voit une femme qui a confessé sa foi. On sait aussi que Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. On voit ça dans Jean 11 aussi. Donc, on va parler un petit peu de Marthe. Marthe qui invite. Alors, on ne sait pas s'il y avait que Jésus seul ou les disciples. On suppose que les disciples étaient avec, donc ça faisait du monde. Hein. Imaginez-vous, 13 personnes d'un seul coup dans une maison. Et on voit que Marthe, c'était une travailleuse. C'était quelqu'un qui, en fin de compte, faisait beaucoup de choses. Et même, il est dit, dans le verset 40, Marthe occupée à divers soins domestiques. Donc, on peut supposer Marthe prendre ses responsabilités, maîtresse de maison, en disant « Je veux bien recevoir dignement Jésus-Christ. Je vais tout faire. Je vais mettre les petits plats dans les grands. Et je vais mettre ma maison la plus belle possible. Accueillir le mieux possible. » Et ça, c'est formidable. Elle a dû faire un travail excellent. Mais vous savez, quand on invite, on pourrait dire qu'il y a plusieurs attitudes. Oh, j'en ai noté trois. Je pense qu'il y en a plusieurs d'autres avec des nuances différentes, en mélangeant un peu les nuances des trois catégories. Je peux inviter par amour. J'invite par amour et donc quand c'est l'amour qui me pousse à inviter, je peux dire je fais tout pour plaire à la personne, je fais tout pour que la personne soit bien, qu'elle soit à l'aise, que ça soit une joie pour elle, que vraiment cette invitation soit un moment de joie. Donc on fait tout pour cela. On peut aussi inviter par amour propre ou par orgueil. Et là, on peut aussi, pareil, se ferrer à toutes sortes de travaux en disant... Je veux faire voir que ma maison, elle est bien tenue, que je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui fait voir que ma maison, elle est propre, elle est nickel. Je vais faire voir aussi que je sais bien cuisiner, que je fais des bons petits plats. Et que je fais tout, vraiment, en disant, ah, c'est formidable. Parce que j'aimerais bien qu'on me dise des louanges en disant, ah, oh, mais c'est bien ce que tu fais, mais oh, tu cuisines bien, et puis ta maison, elle est propre, et puis, oh là là, une femme formidable. Et puis, il y a, on pourrait dire, la troisième, c'est par obligation. Car il faut inviter parce que il faut, Jésus passe, ou les personnes sont là, il faut les inviter, parce que bon, si on les invite pas, ça fait mal. Et puis bon, l'autre côté, bon, il faut inviter, puis ça fait bien, les autres les invitent, pourquoi moi je ne le ferais pas, donc j'ai invité, ou alors ils m'ont déjà invité, donc il faut que je rende l'appareil, donc il faut que j'invite aussi. Vous voyez, il y a plusieurs motivations quand on invite. Alors je ne veux pas que vous soyez découragés à inviter, hein. Mais je pense qu'une leçon, c'est soyons simples. Et n'oublions pas ce qu'il dit dans Hébreux 13, persévérez dans l'amour fraternel et n'oubliez pas l'hospitalité. Et dans Pierre, il dit exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Voilà. Donc quand j'invite, que je sois dans l'amour simplement, il n'y a pas besoin de faire forcément tout l'étalage, hein. Soyons naturels, hein. Sauf si, bon, il y en a qui sont plus nickel que d'autres, et ça, c'est naturel pour eux, bon, ben, voilà. Mais soyons simples, entre nous, c'est important. Alors, Marthe, c'était une travailleuse. Mais, on va voir un peu quelle attitude elle avait. Alors, nous ne savons pas combien de temps ça a duré. On ne sait pas la longueur. Mais on peut s'imaginer une Marthe qui travaille, et puis, à un moment donné, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Mais, à l'intérieur d'elle, elle commence à dire, mais elle est là-bas, là, elle écoute Jésus, elle est assise, et moi, je travaille. Puis, ça a dû commencer à ruminer dans son cœur, dans sa tête. Et, bon, 5 minutes, ça va, mais... Là, ça commence à faire un certain temps. Et puis, peut-être qu'elle a dû faire des signes. Viens. Ou, hein, pour essayer d'attirer l'intention de Marie en disant, mais écoute, réagis. Tu vois pas que je suis tout seul. Puis, toujours rien. Marie, écoute. Alors, ça a dû continuer à ronger à l'intérieur et puis même à dire, mais attends, Jésus, lui, il prend pas ça aussi en considération. C'est vrai, il fait pas attention à moi. Il y en a que pour Marie, dans un sens. Il voit pas que je sers, il voit pas que je suis tout seul. Et je pense qu'à un moment donné, ça a dû monter, ça a dû bouillir. Puis à un moment donné, elle a éclaté, hein, à tel point qu'elle était vers Jésus direct. Et regardez ce qu'elle dit à Jésus. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Ça te fait rien? Dans la colombe, il dit, tu te mets pas en peine? Ou dans Parole vivante, il dit, maître, cela ne te dérange pas, non? Je sais pas si vous vous rendez compte. Un petit peu. Imaginez-vous, vous êtes l'invité. Qu'on fasse cette réflexion-là. Non, ça ne te dérange pas, non, que je sois tout seul à servir. Non, ça ne te gêne pas, non. Vous rendez compte un petit peu? Voir l'invité et puis lui dire ça. Et demander, en fin de compte, mais tu ne peux pas lui donner un ordre, là? Tu ne peux pas dire à Marie, écoute, arrête de m'écouter et viens m'aider. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas si évident que ça. Alors peut-être ce matin, si je vous donnais peut-être la parole, peut-être quelqu'un prendrait la défense de Marthe. En disant, oui, mais bon, Marthe, elle a raison dans un sens, c'est une travailleuse. Et puis Marie, c'est une paresseuse, hein, elle fait rien après tout. Hein, qui est-ce qui prendrait la défense de Marie ce matin, hein? De Marthe, pardon. Peut-être. Parmi nous, les travailleurs qui aiment bien travailler, hein, et qui aiment bien être considérés. Voyons un petit peu Marie. Qu'est-ce qu'il est dit de Marie? Il est dit au verset 39, s'étant assise. C'est pas dit qu'elle se tenait assise. Très important. S'étant assise. Ça veut dire qu'avant elle travaillait. Avant elle était active. Elle s'est assise à un moment précis, s'étant assise. Il est dit aussi, et bon, ça ne paraît pas dans nos versions, mais il est dit « m'a laissé seul » au lieu « elle me laisse seul ». C'est un très intéressant. Pourquoi Marie, à un moment donné, elle a laissé le travail pour s'asseoir au pied de Jésus? Pourquoi? Il est dit parce que Jésus parlait. Très intéressant. Marie laisse son tablier, laisse son torchon et s'assoit parce que Jésus est là et il parle. C'est pour cela qu'il est dit, hein, on relit, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Très intéressant. Donc on voit que ce n'est pas une paresseuse, mais une personne qui a su s'arrêter au bon moment. Là, il y avait Jésus, le Seigneur, qui était là, qui parlait des paroles de vie. Et Marie ne voulait en aucun cas perdre une miette de ses paroles. Parce que ses paroles étaient plus précieuses que toute autre chose. Et elle était là et elle voulait écouter, elle ne voulait rien manquer de toutes les paroles que Jésus allait dire. Marie au pied de Jésus. Oh, c'est pas la première fois qu'elle est au pied de Jésus. On parle d'elle à deux autres reprises, dans Jean 11 et dans Jean 12, et encore on la voit les deux fois au pied de Jésus. Comme dit Roche-Dieu, quand on est au pied de Jésus, on est bien près de son cœur. Quand on est au pied de Jésus, on est bien près de son cœur. Donc on voit que Marie s'est arrêtée à un moment précis pour pouvoir écouter les paroles de Jésus. Parce que Jésus était là, lui le prince de vie, lui qui donne les paroles de la vie. Lui qui donne cette nourriture qui nourrit notre âme, notre être intérieur. Alors, que dit Jésus? Maintenant, Jésus répond à Marthe. Et il lui dit, mais Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Dans notre version, il dit, pour beaucoup trop de choses. Une chose, une seule chose est nécessaire. Donc, on voit Jésus va reprendre Marthe. Va lui montrer que son zèle démesuré et d'en faire trop n'est pas forcément utile. Il va lui montrer qu'il y a une chose nécessaire pour l'instant. En fin de compte, Jésus lui dit, mais je suis là, je parle. C'est ça le plus important. Je suis là, je parle. Et la chose la plus importante, c'est le Seigneur. Et on connaît tout. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous sont données par-dessus. Et en fin de compte, Jésus voulait lui dire, mais arrête-toi un peu et sois là à écouter. Toi, Marie, elle a su s'arrêter. Toi, Marie, elle a choisi la bonne part. Et elle ne lui sera pas ôtée. On ne lui dira pas, arrête. Non, non. Reste à écouter. Voilà. Reste à écouter. Vous savez, le Seigneur, ce qui comptait, il préférait avoir un repas plus simple, mais que Marthe soit là à l'écouter. Parce que le but de Jésus, c'était pas d'avoir un bon repas, mais c'était pour transmettre la parole. Et c'est très intéressant quand on lit Apocalypse 3:20, un passage que nous lisons bien souvent pour l'évangélisation, où il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dans Parole vivante, il dit « Nous dînerons en tête à tête, moi près de lui et lui près de moi. » Ça veut dire que Jésus, quand il est invité, son but c'est de qu'on soit là, en communion avec lui. Non pas être à la cuisine et venir de temps en temps en servant, mais être un tête-à-tête avec lui. Être en communion avec lui. Alors, quelle leçon pour nous? La leçon, c'est que on peut servir le Seigneur. avoir un zèle qui, qu'on pourrait dire, qui fait peut-être rougir plusieurs en disant « Oh là là, celui-là, il est très zélé ». Mais vous savez, on peut être très zélé pour le Seigneur et pourtant pas avoir de communion avec lui. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu et pourtant pas avoir de communion avec lui. Ça, c'est dramatique. Avoir un zèle. Et même, des fois, ce zèle peut me dire « Ah, mais moi, je fais beaucoup de choses et puis lui, il fait rien !» On commence à juger, on commence à critiquer. Mais en fin de compte, c'est parce qu'il n'y a pas le Seigneur, il n'y a pas cette communion, il n'y a pas cet amour véritable du Seigneur. Au lieu de s'arrêter comme Jérémie dit, « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. » Voilà. N'oublions pas que nous avons été appelés à la communion de son Fils. Donc prenons le temps d'écouter. Peut-être que je ne vais pas servir le Seigneur, mais dans la vie de tous les jours, là nous sommes à la rentrée, il y a une année scolaire qui est devant nous, chacun va retrouver ses activités, le travail, boulot, dodo, qu'on dit, le train-train de tous les jours, avec une pression. Là aussi, dans ce monde où on fait tellement de choses, quelles sont mes priorités? Parce qu'on peut faire beaucoup de choses, beaucoup, 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 beaucoup de choses, et même des fois se charger de beaucoup de choses. Quelles sont mes priorités? Avoir ce temps avec le Seigneur. Je voudrais quand même tirer une autre leçon. Vous savez que Marthe me fait penser aussi à un frère. Me fait penser à un frère, le frère du fils prodigue. Vous savez, ce fils prodigue qui est revenu à la maison après avoir dépensé tous les biens, et puis quand le père le voit, est formidable, content de voir son fils revenir à la vie, et il fait une fête. Mais il y a le frère qui est dans les champs, qui entend cela et qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il est dit dans Luc 15, on lui dit « Mais ton serviteur !» Verset 27, il dit, ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Et quelle est la réaction de ce frère? Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Il y a tant d'années que je te sers, papa. Sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Donc on voit pareil, la même attitude, quelqu'un qui sert, qui travaille dur depuis des années sans transgresser les lois de son père. Et là, le frère, lui qui a mangé la moitié de l'héritage, il revient et on lui fait la fête. Oh là, ça boue, il éclate, il dit non, non, moi, il boude, il dit non, je ne viendrai pas. Et là, le père lui dit, mais attends. Et là, il fait des reproches, pareil, il fait des reproches. Il dit, écoute, tu invites celui-là, mais il a mangé ton argent. Et là, le père lui dit, mais tu sais, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à toi. Encore une leçon, là. Je peux servir Dieu. Et comme je ne suis pas en communion avec lui, mais je fais les choses d'une façon très légaliste, très bien, et qu'il n'y ait pas de communion avec le Seigneur, eh bien je me prive de toutes les bénédictions que le Seigneur veut me donner. je sers d'une façon légaliste, même une attitude dure et sans miséricorde par rapport aux autres qui reviennent, parce qu'ils n'ont pas servi avec amour. Et c'est pour cela qu'il est important. Vous voyez, on peut servir Dieu, mais sans amour, sans passer de communion, sans avoir de la communion avec Dieu. Et tout ce que je fais, en fin de compte, c'est ma propre justice. Je fais parce qu'il faut le faire, parce que ça fait bien. Et puis je peux dire, regardez comme je suis quelqu'un. Il a pu dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous voyez ? Donc, faisons attention. N'oublions pas que la chose essentielle en premier, nos priorités, c'est ce temps avec Dieu, cette communion avec lui. Et vous savez, Marie, parce qu'il y a une leçon, vous savez qu'elle a fait une œuvre. Marie, elle a fait quelque chose de formidable. Quelque chose où le monde entier, partout où l'évangile est prêché, on parle d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait une œuvre, et une œuvre bonne. Vous voyez, on peut faire beaucoup d'œuvres et pas en tenir compte, mais on peut faire une seule œuvre, et on en parle partout, et même le Seigneur loue pour cela. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie ? Elle qui était à l'écoute, elle qui a discerné la volonté de Dieu, elle a su, au bon moment, embaumer le corps avant que Christ meure. C'est la seule à avoir embaumé le corps de Jésus. Regardez, dans Marc 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, et on sait que c'est Marie. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui refermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent en outre leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. 300 deniers. 300 jours de travail. Parfum de grand prix, hein. Et en plus, on aurait pu le vendre pour 300 deniers et les donner aux pauvres. Il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? On voit encore Jésus qui prend la défense de Marie, hein. À chaque fois, on a critiqué Marie. Marie n'a jamais répondu. C'est toujours Jésus qui a répondu. Elle n'a pas défendu sa cause. Très intéressant aussi, c'est une bonne leçon. Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et je vous dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Voilà une œuvre qui reste. Vous savez, dans Corinthiens, c'est marqué, faisons attention de la façon qu'on bâtit. On peut bâtir avec toutes sortes de matériaux, avec de l'or, du bois, toutes sortes de choses. Mais il y a des matériaux qui restent, il y en a d'autres qui ne restent pas. Et je peux faire beaucoup de choses pour Dieu, et puis qu'en fin de compte, c'est que du vent. Il n'y aura plus rien. Par contre, je peux faire qu'une chose, mais qui va rester. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Marie avait ce secret d'être au pied de Jésus pour se laisser instruire, pour se laisser enseigner dans sa volonté. Et il ne faut pas oublier ce que Jésus a dit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, voilà. En premier, dans nos vies, c'est d'être au pied de Jésus. Seigneur, voilà, ce qui compte en premier, c'est ma communion avec toi. C'est pas ce que je fais qui compte, mais c'est mon attitude vis-à-vis de lui. Est-ce que mon cœur est à lui ou pas? Est-ce que mon cœur est à lui? Parce qu'en fin de compte, ce que le Seigneur veut, c'est nos cœurs, c'est nos vies. Et dire oui, Seigneur, à tes pieds, divin maître, je m'attends à toi. C'est cela. Alors c'est sûr qu'on peut faire beaucoup de choses, mais en premier, soyons aux pieds du Seigneur. Et en fin de compte, c'est lui qui nous dira ce qu'il faut faire. C'est lui notre chef. C'est lui le chef de l'Église. C'est lui qui bâtit son Église. Et combien il est important d'être à son écoute et être à ses ordres, dans une attitude de soumission, dans une attitude d'écoute, en disant « Voilà, ce qui compte en premier, c'est toi. » Parce que le Seigneur, il préfère qu'on l'aime plus que de faire beaucoup de choses sans amour. D'ailleurs, c'est ce qu'il va reprocher à l'Église d'Éphèse. Une Église qui a fait beaucoup, beaucoup, qui faisait beaucoup de choses. Mais dis ce que j'ai contre toi, si tu as abandonné ton premier amour. Et je crois qu'il est important que cette leçon de Marie soit pour nous. Marie et Marthe. Peut-être certains vont dire, oui, mais moi je suis plus Marthe que Marie. Le Seigneur nous appelle tous à être des maris. Des maris qui, en communion, qui va agir. C'est pas deux en disant, voilà, il y a ceux qui travaillent et puis ceux qui sont dans les monastères. Non, c'est pas ça. C'est ceux qui sont en communion avec Dieu et qui vont faire les choses comme Dieu le veut, dans la direction de Dieu. Nous allons prier. Oh oui, Père, ce que tu nous dis à travers ta parole, c'est que tu veux nos cœurs. Tu veux que nous soyons maniables entre tes mains. Et Seigneur, je te donne ma vie. Prends-la. Fais ce que tu veux. Et Seigneur, ce qui est important, c'est cette communion avec toi. Comme disait l'apôtre Paul, Christ est ma vie. Et Seigneur, aide-nous à nous asseoir, à t'écouter, être avec toi, avec ce tête-à-tête, cette communion avec toi, et combien cela est bon. Tu dis heureux celui qui écoute. Tu dis heureux ceux qui sont aussi dans ta présence. Et c'est ce que nous voulons. Et Seigneur, je souhaite pour chacun ici, pendant cette année, que nous soyons des maris qui sont à ton écoute, qui demeurent en toi, qui attendons tout de toi. Et Seigneur, en tant qu'Église, nous voulons tout attendre de toi, parce que c'est toi qui es le chef, c'est toi qui bâtis ton Église. Et Seigneur, c'est dans cette position-là que nous voulons être. Et Seigneur, toi, dans tout ce que nous ferons peut-être cette année, mais Seigneur, nous voulons recevoir les ordres de toi et nous voulons marcher dans tes voies. Nous t'en prions, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.